Et on retrouve tout de suite Kabbalat Shabbat, une émission qui vous est présentée par Bernard Aboif.
Bonjour à tous, Bernard Aboif au micro. On se retrouve comme chaque semaine pour Kabbalat Shabbat, une grande émission de Torah et de pensée juive. Et nous sommes en ligne avec Ravéli Lemel. Ravéli Lemel, bonjour à vous.
Bonjour.
Et Shabbat Shalom.
Bien sûr, Shabbat Shalom.
Ravéli Lemel, on ouvre un nouveau livre. Voilà, on avance dans l'étude de notre paracha de notre semaine et on arrive dans Devarim. Et alors vous voulez intervenir sur le tout début de notre paracha et sur les reproches. Parce que on connaît cette sentence qui dit celui qui peut faire un reproche, qui peut empêcher un autre de faire une avera, il l'empêche pas. C'est une faute, il faut savoir le faire. Donc en fait, on a une responsabilité de faire des reproches. Puis en plus, bon là, c'est quand même d'un niveau bien supérieur à tout ce que je pourrais faire moi dans ma vie, mais ça se fait pas comme ça. Il y a une méthode, comme pour tout, la Torah a des réponses. On ne fait pas des reproches comme ça, Ravéli Lemel.
Tout à fait. Alors, d'abord, j'aimerais reprendre le terme et presque utiliser un autre terme de remontrance, remontrer, puisque c'est ça au fond, une remontrance, c'est montrer à nouveau ce qui s'est passé pour que la personne comprenne un petit peu ce qui s'est passé. Alors, évidemment, il y a la notion, comme vous l'avez bien évoqué, c'est-à-dire de dire aux personnes afin qu'elles ne fautent pas, d'accord ? Donc ça, c'est quelqu'un qui s'apprêterait à fauter et lui donner conscience de ce qu'il va faire et pour qu'il se donne les moyens de ne pas mal agir par rapport à cela. Et il y a aussi par rapport donc à des actes qui ont déjà eu lieu. Et c'est intéressant de voir qu'au début de cette paracha, justement, Moshe Rabbeinu se tourne vers le peuple d'Israël. On sait que Mishneh Torah, ça y est, on a abordé ce qu'on appelle la répétition de la Torah, puisque Devarim va être essentiellement consacré à la reprise de bon nombre d'événements de l'histoire du peuple juif. Bon nombre de mitzvot vont être répétés, parfois de manière quasi identique. On va voir la semaine prochaine, Bezrat Hashem, avec Vaetranan, avec les 10 paroles. Mais Moshe Rabbeinu commence. Elea Devarim, Asher Diber Moshe El Bnei Israël. Voici les paroles que Moshe prononce aux enfants d'Israël. Bamid Barba, Arava, Molsouf. Et là, on donne des indications de lieux dans le désert, dans la Arava, en face de Souf, entre Paran, Tophel, Lavan, Hatserot et Dizav. Toutes sortes d'indications géographiques qui, au fond, même pour nous en tout cas, on n'en voit pas, entre guillemets, bien sûr, trop l'intérêt parce qu'il faut quand même identifier ces lieux. Et Rachid sur place nous dit, eh bien non, évidemment que ça se passe dans le désert, on n'a pas besoin de le dire, mais surtout les noms de lieux qui sont donnés ne correspondent pas nécessairement à des lieux géographiques, mais ce sont des noms de lieux, mais les noms symbolisent des événements que le peuple d'Israël a vécu, dans lesquels il a malheureusement dysfonctionné. Et c'est une manière un petit peu allusive de rappeler cela. D'Izahav, par exemple, d'Aizahav, quand ils avaient beaucoup d'or, de l'or, tiens, ça vous fait penser à quoi ? Au veau d'or. Et donc, Moshe Rabbeinu, au fond, fait passer un message en rappelant certaines choses que le peuple d'Israël a faites, mais de manière un peu allusive, de manière fine au fond. Alors, on va voir bien sûr par la suite que Moshe Rabbeinu va continuer à parler et va dire les choses. Il va dire les choses au peuple d'Israël, il va leur rappeler malheureusement leur révolte, leur désir de ne pas monter sur la terre d'Israël, ce qui s'est passé avec les explorateurs, bon nombre de choses. Mais au fond, est-ce que ce point de départ ne serait pas, pardonnez-moi, ne serait pas au fond une forme d'indication sur la manière, l'état d'esprit, la manière dont on va devoir faire les choses par la suite. Et comme je vous le disais, rentrez un petit peu dans le monde de la finesse, rentrez dans le monde de la subtilité, un univers dans lequel d'abord on fait confiance à l'autre de comprendre le message qu'on lui porte, qu'on lui propose, sans arriver de manière, pardonnez-moi l'expression, un peu lourde, avec ses gros sabots, c'est très mal ce que vous avez fait, vous vous rendez compte, etc. etc. D'ailleurs, au passage, il y a un grand principe, vous savez, dans la vie, vous n'avez pas besoin de dire aux gens ce qu'ils savent déjà, quand un enfant fait une erreur et qu'il a 2 ans, qu'il jette quelque chose par terre. Alors, on va imaginer que peut-être il ne se rend pas compte ou il ne sait pas, mais quand il en a 6 ou 7, 8, 9, 10, évidemment qu'il est au courant qu'on ne peut pas le faire. Donc lui dire c'est mal, ça ne sert à rien. Ce qu'il faut, c'est comprendre un petit peu pourquoi il a fait les choses. Parce que derrière la remontrance, au fond, il y a avant tout, on l'espère en tout cas, un désir pédagogique, c'est-à-dire l'envie de faire passer un message, l'envie d'amener la personne à repenser, à réfléchir aux actes qu'elle a pu commettre, aux erreurs qui ont pu être les siennes, au manque de réflexion qu'elle a pu avoir par rapport à certaines choses qui l'a amené à avoir certains comportements que l'on ne peut avoir, des paroles, des actes, que sais-je. Et ça, c'est peut-être un petit peu ce point-là. D'ailleurs, vous savez, c'est très intéressant parce que, au fond, cette notion de finesse, on la retrouve chez Moshe aussi dans un autre épisode très intéressant. Vous savez, quand les filles de Tzlofrad, on a vu ça la semaine dernière, étaient venues chez Moshe, lui avaient dit « Moshe, notre père n'a pas de garçon, il y a un problème d'héritage, comment on fait ?» Et le texte nous dit que Moshe tout de suite s'adresse au créateur de l'univers qui donne la réponse, qui dit « Mais évidemment, elles vont hériter de leur père, mais pour que leur héritage reste dans la tribu, parce que c'est là, c'est le moment dans lequel on répartit géographiquement les différents lieux en Israël entre les tribus. Alors, il faudrait qu'elle se marie avec des gens de la tribu, comme ça reste. » Et c'est intéressant de voir que cette réponse logique, Moshe ne l'a pas eue. Pourquoi ? Parce que les filles de Tzlofra lui avaient dit « Notre père est mort et notre père ne faisait pas partie de tes opposants. » Et Moshe, c'est la finesse aussi, il s'est dit « Waouh ! Il ne faisait pas partie de mes opposants, donc ça veut dire que c'était quelqu'un qui était un ami, en tout cas pas un ennemi. Eh bien, je vais les voir différemment, ces jeunes filles. Et peut-être que la réponse que je vais donner ne sera pas la réponse que j'aurais dû donner. » Alors, vous voyez, c'est deux sujets complètement différents, mais j'ai l'impression qu'on retrouve dans les deux le même principe. Faire preuve de finesse, faire preuve de sensibilité par rapport à soi-même. C'est-à-dire, Moshe Rabbeinu se dit, mais au fond, si je m'analyse avec finesse le fait d'avoir entendu que leur père qui n'est plus là n'était pas de mes opposants, risque d'altérer mon jugement. De la même manière, je vais dire les choses, mais quelque part, si je le dis avec force, on peut ne pas les entendre. Il faut faire preuve aussi de finesse, essayer de réfléchir comment l'autre va l'entendre, comment l'autre va le percevoir. Vous savez que parfois, eh bien, des paroles très sensées sont totalement inaudibles parce qu'elles sont prononcées avec dureté, avec violence. On sent que même parfois, on est presque content de pouvoir dire certaines choses parce qu'on a, des colères, on a des choses autres à l'intérieur de soi. On le constate souvent dans le monde des relations humaines, quand vous avez eu un conflit avec quelqu'un et qu'à un moment, vous allez exprimer quelque chose vis-à-vis de cette personne, un reproche, une remontrance, il y a comme une forme de joie malsaine qui nous envahit parce qu'à un moment, pardonnez-moi l'expression, on lui rentre dedans. Moshe Rabbeinu dit attention, attention. Attention d'abord, faire attention par rapport à soi, bien s'examiner soi-même, avec finesse, avec subtilité. Est-ce que je suis sûr d'être totalement toujours dans la neutralité de mes propos ? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'un peu personnel qui rentre là-dedans ? Et s'il y a quelque chose de personnel, alors est-ce que je suis sûr que ces mots ont-ils leur raison d'être dits ? Tout ça, ce sont des choses sur lesquelles on nous demande de réfléchir. Et ça, c'est un petit peu le début de Dvarim. Eléa Dvarim, voici les paroles. Davar, une parole, Dibour, c'est aussi Yadber, c'est une parole forte, c'est une parole qui est là pour bouleverser. Mais tout de suite, les premiers mots, allez, je vais leur montrer qu'au fond, je n'ai pas envie de les tirer vers le bas. Et je leur dis quelques mots, ils vont comprendre de quoi il s'agit, ils vont comprendre l'état d'esprit qui est le mien. Peut-être que c'est ça la bienveillance, c'est-à-dire même si à un moment on va devoir dire les choses, mais en amont, rassurer l'autre sur l'état d'esprit qui est le nôtre, pour que la suite des mots qui sont prononcés eh bien, puisse être véritablement entendue et qu'ils puissent remplir leur fonction et leur but. Voilà un petit peu en tout cas ce que je voulais partager avec vous par rapport au début de ce livre de Dvarim. Et rappelons-nous que autour de Dvarim, eh bien, se promène toute l'histoire du 9 Av, de la destruction, c'est Shabbat Chazon, des moments très lourds dans lesquels on connaît le drame de la haine gratuite, de tout ce qui va autour des relations humaines dans lesquelles on est là un peu dans nos violences, dans, dans des choses qui, au fond, la plupart du temps, ne sont pas nécessaires et qui nous révèlent qu'on a encore un vrai, vrai travail en profondeur à faire, toutes et tous, par rapport à nous-mêmes. C'est en tout cas ce à quoi la Torah nous engage.
Je crois me souvenir que Rav Steinman disait que l'écrit n'a aucune valeur éducative.
Évidemment.
Oui,
ah, évidemment, ça va même beaucoup plus loin. Vous savez que Rav Chaim Vital, qui était donc l'élève du Ari Akadosh, du Arizal, donc maître de la mystique juive, maître parmi les maîtres, disait que s'il y a bien un point sur lequel le Arizal était dans une vigilance absolue, il dit au-delà de toutes les transgressions possibles, sa vigilance, elle était sur la colère. Pourquoi ? Et je vous le résume très rapidement. Il disait parce que la colère, d'après la Kabbale, d'après les maîtres du Zohar, atteint l'organe du cerveau, de l'intellect. Pourquoi ? Parce que tout simplement, si demain je vous dis, voilà, il y a un message à faire passer à la personne, est-ce que, si vous réfléchissez avec votre tête, est-ce que c'est en criant qu'il va pouvoir le recevoir ? Non. Et même si on crie et qu'on pense qu'il l'a reçu, est-ce que vous pensez que ça va améliorer les relations ? Évidemment que non. Donc l'intellect nous pousserait à faire exactement le contraire et pourtant on ne l'utilise pas. Et c'est la raison pour laquelle il est tellement important de prendre le temps de réfléchir. Parce que justement, c'est de cette manière-là qu'on arrive à faire avancer les choses et l'histoire.
Alors, moi, je disais pas forcément parler avec la colère. Ça, c'est sûr qu'il vaut mieux attendre. On sera entendu. D'abord, on sera plus cohérent et on sera mieux entendu. Non, je croyais, moi, que des fois, parler d'une voix forte à un enfant, par exemple, ne traverse pas sans me tenir la main, lui faire un peu peur, c'était utile. Parce que alors, il faut qu'il sache que ça fait peur, quoi.
Alors, c'est sûr et certain que vous savez qu'il y a une notion qui existe dans les livres du Moussa qui s'appelle Ka'as Chutz velo Ka'as Pnim, une colère extérieure mais pas une colère intérieure. C'est-à-dire que on peut, je ne sais pas au niveau, en tout cas, je ne sais pas au niveau de l'éducation, c'est vrai que ce sont des choses sur lesquelles il faut bien penser parce que parfois la force du propos peut avoir un effet complètement bloquant chez l'enfant qui n'entend même plus les mots qu'on prononce. Parfois, certaines personnes, en tout cas des adultes, ont besoin d'entendre une parole plus forte pour prendre la mesure de l'importance des choses. Ce qui est important pour celui qui les prononce dans ces cas-là, c'est qu'à l'intérieur de lui, il soit calme. Mais c'est vrai que ce que Rav Steinman dit, évidemment, c'est d'ailleurs ce que nos maîtres disent, « Divrei chachamim benachat nishmaim » Les paroles des sages s'écoutent benachat, dans le calme, la sérénité et la pondération.
Rav Eli Lemel, je vous remercie. Shabbat shalom.
Shabbat shalom.
Et nous sommes en ligne à présent avec Rav Mordechai Biton. Bonsoir Rav Mordechai.
Shalom, shalom, Shabbat shalom.
Rav Mordechai Biton, une fois n'est pas coutume, vous voulez réfléchir un peu sur notre parasha, mais déjà aussi ouvrir la réflexion sur Tisha B'Av. Et donc, alors vous avez sorti un livre très important, qui est un livre de référence, c'est La guerre des Juifs, écrite par... Le titre du livre s'appelle La guerre des Juifs. C'est donc La guerre des Juifs de Flavius Joseph, qui est, pour les historiens, pour tous les érudits, la référence pour savoir ce qui s'est passé au moment de la destruction du Second Temple, puisque c'est il a écrit justement ce fameux livre, il a aussi écrit d'autres textes qui nous décrivent cette période. Et il y a vraiment une source d'informations incroyable dans ce qu'il écrit, vraiment des habitants.
Alors oui, effectivement, on rentre dans Parashat Dvarim avec ce qu'on appelle le Shabbat Chazon, où on lit la Haftara, c'est-à-dire le texte des prophètes Chazon, où... Le prophète nous raconte ce qu'il voit et les malheurs qui vont s'abattre sur Jérusalem. Donc c'est un texte prophétique poignant qui nous raconte, qui nous annonce cette destruction de Jérusalem. À l'heure où j'enregistre et où on passera Shabbat, on sera encore, selon les dires du Rambam de Maïmonide, en mesure d'espérer qu'on n'aura pas besoin de fêter Tisha B'Av et que le Mashiach va se dévoiler. On a le droit. Rambam dit que chaque jour on peut espérer malgré le fait qu'il tarde, entre guillemets. Mais en tout cas, il y a quand même un certain nombre de phénomènes répétitifs qui sont quand même des phénomènes intéressants. Et je pense que dans la logique de la réflexion sur Tisha B'Av, on sait que la raison pour laquelle le deuxième temple a été détruit, c'était la haine gratuite, les machloquettes, les disputes violentes, les guerres civiles. Là, j'ai sous les yeux un texte dont on a l'impression qu'il a été écrit hier ou qu'il aurait pu être écrit aujourd'hui quand j'enregistre ou même demain. Et c'est en fait ni plus ni moins que Vespasien, qui est le général qui conduit les troupes romaines avant que Titus n'arrive. Vous savez que la Gemara va raconter que Vespasien va être approché par Rabbi Yochanan ben Zakkai, qui lui annonce qu'il va devenir roi et donc il va partir vers Rome, il va laisser Titus. Mais Vespasien, au moment du siège, donc, dit à ses, parle avec ses troupes et ses généraux le pressent de donner l'assaut à Jérusalem. Regardez ce que dit Vespasien. Alors, il y a ce que raconte sa vie Joseph. Il dit tous les ministres de la guerre, enfin tous les chefs romains, les chefs militaires romains, se réjouissaient des querelles, des querelles fratricides au milieu de leurs ennemis, donc les Juifs, comme un butin extraordinaire. Et ils avaient envie de se dépêcher, vite de monter, de conquérir la ville. Et donc, ils pressaient Vespasien en lui disant, ben voilà, si on se dépêche, on va gagner. On va gagner et on aura la possibilité donc de gagner. Et lui, il leur disait non. Sachez que actuellement, pardon, et eux lui disaient, sache que leur Dieu, en vérité, leur fait la guerre. Ils sont en train de se combattre les uns les autres. Chacun combat son frère. Et sache que la roue peut tourner et qu'ils peuvent à nouveau s'unir. Et là, on aura perdu une bonne occasion. Et regardez ce que va répondre Vespasien. Il dit, sachez que vous vous êtes trompé avec le conseil que vous me donnez d'attaquer maintenant parce qu'ils risquent de s'unir à nouveau, on aura du mal à les battre. C'est vrai, vous avez envie de montrer votre force et la puissance de vos armements, comme ceux qui sont là et qui sont là en train de réaliser leur vieux rêve. Mais sachez que ce que vous faites est extrêmement dangereux. Et vous ne faites pas attention à la fois aux bénéfices que vous devez tirer de cette bataille, en même temps à votre shalom à vous. Si vous vous dépêchez de monter sur la ville, d'essayer de la convaincre, de la conquérir, la seule chose que vous allez faire, c'est que les Juifs vont faire une alliance de shalom entre eux. Et avec leur droite, avec leur puissance, ils vont nous battre. Et sachez que si par contre vous prenez du temps, vous leur donnez encore du temps, donnez-leur du temps, soyez patients. Qu'est-ce qui va se passer? Le nombre de nos ennemis va diminuer car la querelle va les manger. C'est bon pour nous d'être assis de côté en quelque sorte, tranquillement, et de ne pas nous mêler des querelles qui conduisent à la mort. Et eux se bagarrent entre eux dans un esprit de folie. Un esprit de folie s'est emparé d'eux. Pourquoi ? Parce que les Juifs actuellement ne se soucient pas de préparer des armements pour se battre contre nous, ils ne se soucient pas de renforcer leurs murailles et donc de se battre contre nous pour qu'ils soient prêts. Donc, non, pas du tout. Ils sont maintenant en train d'utiliser le temps pour s'étrangler les uns les autres dans une guerre fratricide et dans la marloquette. Et chaque jour qui passe, ils supportent de nouveaux malheurs. Et si maintenant, nous essayons de monter, sachez une chose, c'est que ça ne marche pas. Et la victoire ne viendra pas par la puissance de vos armements, mais tout simplement par les disputes qui règnent entre eux. Voilà, mon cher Bernard, ça a été écrit il y a 2000 ans, il y a 1700 ans maintenant, par Flavius Joseph, qui décrit l'esprit, l'état d'esprit de Vespasien, le général qui conduit donc les troupes. C'est pas la peine. Laissez-les se disputer, ils vont s'étrangler les uns les autres, ils passeront plus de temps à vouloir s'étrangler, à la fin ils seront moins nombreux, ils seront moins forts, et sachez que si vous gagnez, c'est pas par la force de votre armement, c'est le chef militaire qui parle. On est armé, on a tout ce qu'il faut, c'est pas ça qui va le faire gagner, c'est leur marloquette, c'est leur état d'esprit de dispute et de division. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va se réveiller? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va comprendre? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va comprendre? Des disputes, c'est normal. Des désaccords politiques, c'est normal. Une vision différente du peuple juif, c'est normal. Mais la violence verbale, qui devient une violence physique, qui crée l'animosité, qui entretient un esprit de vengeance et qui divise complètement. Voilà ce que Vespasien dit il y a 1700 ans au moment du siège de Jérusalem. Il se fait tout simplement l'écho de ce que nous disent nos chachamim, de ce que nous disent nos sages. C'est la sinatrinam, la haine gratuite, qui a créé la violence. Et en créant la violence, elle a créé l'impossibilité de revenir en arrière. La violence crée des situations de non-retour. et situation de retour, il faut que ça ne peut plus marcher. Et il faut rappeler une chose. Lorsque les Romains sont entrés à Rome, ou sont rentrés, pardon, à Jérusalem, ils ont tué tout le monde. Lorsque les nazis sont rentrés dans le ghetto de Varsovie, ils ont trouvé d'un côté Mordechai Yanilevitch, le chef de la Shomer Hatzair, donc la gauche sioniste. Et de l'autre côté, Rav Zamba, un gaon, un géant de Torah, qui était un des plus grands rabbinim, des plus grandes autorités dans l'Europe juive. Ils ont tué tout le monde. Et là, maintenant, on a à nos portes des miliciens, des armées, des milliers de missiles, des gens qui, même à l'intérieur d'Israël, en Judée et Samarie, et même dans les villes d'Israël d'avant la ligne de 48, les villes dites mélangées, des milliers de gens qui sont armés psychologiquement, spirituellement, matériellement, pour nous attaquer. Alors qu'on soit divisé en désaccord, c'est tout à fait à notre honneur, c'est la démocratie. Mais la violence, la haine, les insultes, le rejet, des situations de non-retour, voilà ce que Vespasien dit. C'est ça qui va provoquer leur perte. Et voilà ce que nos ennemis pensent. Alors je ne sais pas si cet appel sera entendu, mais au moins je l'ai dit, au moins celles et ceux qui nous entendent pendant Tisha B'Av réfléchiront à ça et se diront que finalement la solution, vous savez que nos sages disent que la solution à l'exil que nous vivons actuellement, quel sera le personnage, par le mérite de quel personnage viendra la solution à notre exil? Par le mérite de Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu nous a donné la Torah. Qu'est-ce que finalement la Torah? La Torah, c'est 70 facettes. Le peuple juif, il a plein de facettes. La Torah a plein de facettes. Mais ces facettes, ce sont les facettes d'un diamant. Et chacune produit une lumière qui éclaire dans une direction différente et révèle une lumière intérieure qui produit son effet sur l'extérieur dans une direction différente et elle permet au diamant de briller dans tous les sens. Et donc finalement, ce à quoi on doit réfléchir, c'est la chose suivante. Ce n'est pas un problème qu'il y ait des facettes différentes, et ce n'est pas un problème qu'il y ait ce qu'on appelle des machloquettes, si elles sont les Shem Shamaïm. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème que les gens soient différents, aient des histoires différentes, des trajets, des chemins de vie différents. Ce qui est horrible, c'est que tout ça devienne un instrument de persécution, d'auto-persécution, de haine et de violence. C'est ça qui est terrible. C'est ça qui est terrible parce que ça veut dire qu'on n'a pas compris ce que c'est la Torah orale. La Torah orale, c'est la révélation de la diversité des facettes du diamant que représente la Torah. C'est la révélation des différentes facettes de ce que représente la richesse de chaque juif, de chaque neshama, de chaque âme du peuple juif. Voilà, sans mauvais jeu de mots, on est un âme ségoula. On est l'âme ségoula, l'âme du juif, c'est la ségoula, c'est le trésor par lequel se révèlent les différentes facettes du projet divin et de la sagesse divine. Alors voilà, je lance ces paroles, je ne pense pas au halal, je ne lance pas dans un espace vide. Elles vont tomber dans des oreilles qui les écouteront et qui, pendant Tisha B'Av, j'en suis certain, vont bien méditer. Que chacun, à son niveau, se dise « je prends sur moi », comme on doit le dire chaque matin avant la tefila. D'aimer chaque juif comme il est. Vous savez que c'est la condition avant la tefila. Ce n'est pas seulement le Baal Shem Tov qui le disait. C'est tous les gdolim, tous les grands du peuple juif. Avant la tefila matin, on doit dire « je prends sur moi la mitzvah d'aimer chaque juif, j'aime chaque juif et ainsi je prépare ma bouche à prier devant Hachem ». Une condition sine qua non, en quelque sorte. Donc on peut parfaitement être très différents les uns les autres et on peut parfaitement être d'accord au fond sur pas grand-chose. Mais aimer la personne qu'on a en face de nous, l'aimer, ça veut dire j'ai une relation néchamique avec cette personne. Elle appartient à une néchama collective qui est celle du peuple juif. Voir un petit peu plus loin que les différences politiques, idéologiques, sociales, les différences même d'approche dans le monde de la Torah. Voir qu'il y a ici une neshama collective et que cette neshama collective, elle a une aventure à vivre pour arriver donc à la Géoula et à la délivrance. Bon, voilà, c'est une réflexion ou un cri d'appel, je ne sais pas comment il faut appeler ça. On a le droit de temps en temps, je pense, d'exprimer avec émotion ce qui vraiment nous travaille et qui finalement nous désole. Alors, Shabbat Shalom à toutes et à tous et j'espère que ce que j'ai dit ici sera vaincu par l'apparition du Mashiach pour lequel nous prions trois fois par jour.
Avant des chaybitons. Je vous remercie et Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Et nous sommes en ligne avec Rav Gué. Bonsoir Rav Gué, Shabbat Shalom.
Bonsoir et Shabbat Shalom.
Alors, c'est toujours un tel plaisir de se retrouver le vendredi après-midi, mais... voilà, vous, ce soir, vous avez envie de parler d'un moment qui est un peu moins gai. Quoique, Vous nous avez enseigné que, c'était d'ailleurs la semaine dernière, que non, ces moments redoutables que nous vivons en ce moment sont aussi porteurs d'une certaine forme de gaieté, d'une certaine forme d'espérance. Toujours est-il que vous voulez déjà intervenir ce soir, Avgué, sur Tisha B'Av, et vous voulez nous expliquer que, quelque part, en fait, Dieu a déversé sa colère sur des murs, sur des pierres, et c'est pas tombé sur nous. C'est-à-dire, peut-être qu'il y a eu, mais vous allez nous expliquer ça, peut-être qu'il y a eu une forme de... Comment dire, on a redirigé cette colère pour éviter de la déverser sur nous, en fait.
Oui, tout à fait. Je voudrais en fait ici faire allusion à une Gemara qui s'interroge sur un psaume, un passage de Tehilim, qui dit « Mizmor les Asaf ». Donc « Mizmor », on sait que c'est un chant. « Les Asaf », donc c'est Asaf, c'était le petit-fils de Korach. Et le thème de ce Mizmor, c'est justement de parler de la destruction du temple. On parle là-bas de terribles prédictions, donc il s'agit de prédictions prophétiques, puisque David HaMelech est avant la construction du premier temple, donc il s'agit de prédictions prophétiques sur la destruction du temple, et on commence ces descriptions avec un mot qui absolument pas à sa place. La Gemara dit « Kina le Asaf Mibayele ». On n'aurait pas dû dire « Mizmor » qui veut dire « chant », mais on aurait dû dire « Kina », c'est-à-dire « Kina », c'est les kinotes, hein, les lamentations. Ça n'a absolument rien à faire, les deux premiers mots, le mot « Mizmor », pardon, et tout le reste. Voilà la question que pose la Gemara. Et la Gemara a de répondre qu'en fait, Akadosh Baruch Hu a déversé sa colère sur les pierres et sur le bois, enfin sur le mur et l'édifice Beth Amikdash, le temple, et non pas sur nous. Alors je vais expliquer un petit peu tout cela en répondant aussi à une autre question qu'on se pose régulièrement chaque année. Donc on sait que dans quelques jours c'est Tisha B'Av, mercredi après-midi déjà commencent certaines restrictions encore plus importantes que celles de dimanche. Dimanche, on sait que c'est Shavua Shechalbo, la semaine dans laquelle tombe Tisha B'Av, où il y a déjà beaucoup de restrictions. Mercredi après-midi, c'est la veille de Tisha B'Av, donc mercredi. Et mercredi après-midi, on n'a plus le droit d'étudier des sujets réjouissants, mais on n'étudie que des choses qui sont liées à Tisha B'Av, au deuil. Le soir, alors c'est vraiment... la rafra, comme on dit chez nous, la plus totale, l'angoisse.
C'est bien parlant, au moins.
L'angoisse totale. Le lendemain aussi. Et puis, bizarrement, à Khatsot, c'est-à-dire à la mi-journée, c'est en fait 14h environ à Paris, eh bien, on se relève, on s'assoit sur des chaises. Certaines personnes font déjà le nettoyage de la maison. Il y a certaines, entre guillemets, on met les tefilines, les talis des tefilines à partir de la mi-journée du Khatsot. Et puis voilà, on a l'impression que qu'on allège un petit peu le deuil, alors qu'en fait, si on réfléchit bien historiquement parlant, le moment le plus terrible, c'est quand c'est justement le jour du Tisha B'Av, le 9 Av, juste avant le coucher du soleil, donc à la fin de la journée, que les ennemis d'Israël, les Romains et Nabucodonosor, donc les Chaldéens, ils ont mis le feu au Beth Amikdash à la fin du 9 av, c'est-à-dire jeudi soir, ce sera jeudi soir cet après-midi, cette année. Et donc c'est a priori le moment le plus terrible. Or, lorsqu'arrive Khatsot, on allège un petit peu, hein, je dis un tout petit peu, hein, c'est pas dit qu'on a le droit de manger ou de boire, le shalom, mais on allège un tout petit peu, alors que ça devrait être le contraire. Et la raison pour laquelle, justement, on allège un petit peu les restrictions, c'est parce que, justement, Hachem a déversé sa colère, non pas sur son peuple, mais sur les pierres et sur tous les éléments qui constituent l'édifice Beth Amikdash. Alors, pendant des années, je croyais, je comprenais les choses d'une façon un petit peu puérile. Je dis franchement, bon, Dieu est en colère, il faut que sa colère se déverse, donc il faut que ça tombe sur quelque chose, donc c'est tombé sur l'édifice et non pas sur le peuple juif. En fait, Dieu n'est pas un homme, il n'a pas besoin de déverser sa colère. Sa colère, c'est pas qu'il a besoin de la contenir et qu'il faut absolument qu'elle tombe sur quelque part, c'est juste puéril. Par contre, je pense que avoir bien compris grâce au Rav Pinkus, qui dans son livre explique la chose suivante. Et il explique sous la forme d'une parabole, d'une histoire qui n'est pas une histoire vraie, c'est une histoire tout simplement pour nous permettre de comprendre vraiment ce qui se passe à Tisha B'Av, justement vers la fin de Tisha B'Av. C'est l'histoire d'un homme qui est un peintre et qui a décidé de partir dans un haute montagne, on va dire les Alpes, pour vraiment faire un paysage et dessiner, peindre un très très beau paysage. Et pour ce faire, il a pris une tente, des provisions. Il va rester là plusieurs jours, plusieurs semaines pour faire son tableau, son chef-d'œuvre, avec un paysage splendide en face de lui. Et donc les jours passent et il finit son tableau. Il est très très fier de son tableau, de sa réalisation. Il prend un petit peu du recul, il regarde la perspective, voit le tableau, derrière il y a le paysage et tout se passe très bien, jusqu'à qu'il y ait un coup de feu incroyable qui vient de nulle part et qui, donc la balle traverse la toile et finalement abîme le tableau, le rend complètement, voilà, le tableau il est abîmé, il est détruit. Alors il comprend pas, il se réveille tout d'un coup, il est comme ça hébété, il regarde et il voit effectivement qu'à une certaine distance il y a un monsieur avec un fusil, et lorsqu'il se rapproche de lui, il voit que c'est son ami, c'est quelqu'un qu'il connaît bien, et il lui dit mais qu'est-ce que tu fais là, quoi, c'est mon chef-d'œuvre, j'ai travaillé des semaines dessus et tu me l'as, d'un coup de fusil, tu me l'as abîmé, tu me l'as détruit mon tableau. Et là il lui dit regarde derrière toi, et en regardant derrière lui il voit qu'il y a un précipice. Et qu'en fait, il était tellement, on va dire, pris par l'émotion de ce tableau magnifique, de ce chef-d'œuvre, qu'il ne voyait pas qu'il reculait, qu'en reculant, il allait tomber dans le précipice. Et donc, son ami lui dit, j'avais le choix, soit je te tirais dessus, évidemment, j'avais pas envie de te tuer, soit j'abîmais ton chef-d'œuvre. Ben, j'ai pas eu le choix, j'ai abîmé le chef-d'œuvre pour que tu te ressaisisses et que tu comprennes que, en quelques pas encore en arrière, et tu tombais et tu mourrais. Donc, je fais ça pour te sauver. Alors il dit, le Rav Pinkou, c'est la même chose. Le peuple juif, lorsqu'il y avait le Beth Amikdash, le temple qui était en place, qui fonctionnait, bah, les juifs, qu'est-ce qu'ils disaient? Bah, on va fauter, c'est pas grave. Le Beth Amikdash va nous protéger, on va amener des sacrifices, des offrandes, et on sera expié. On a un problème, on parle au Kohen Gadol, bref, il y a des offrandes, il y a des caparotes organisées, caparotes, c'est-à-dire des caparotes dans le sens expiation possible à travers le service divin au Beth Amikdash. Donc on a zéro risque. Et donc, il ne prenait pas du tout au sérieux les avertissements des rabbanim, la teshuva, il n'était pas question. Il se sentait vraiment, entre guillemets, en sécurité à l'ombre du Beth Amikdash. Donc, Hachem, il a eu, entre guillemets, un choix à faire. Soit il détruisait son peuple, soit il détruisait le sanctuaire, c'est-à-dire sa propre maison. Et qu'est-ce qu'il a fait, Hachem? Il a dit, je préfère détruire des pierres, détruire cet édifice magnifique qui était le Beth Amikdash. D'ailleurs, le deuxième était absolument incroyable, très 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 beau, comme le décrit la Gemara dans Souka. Je préfère détruire ce Beth Amikdash, mais conserver mon peuple, protéger mon peuple. Alors, il y aurait eu beaucoup de morts, mais finalement, le peuple juif va quand même s'en sortir, et c'est ce que Dieu fait. Donc en fait, lorsque nous arrivons à la fin de Tisha B'Av, même si c'est le moment où le Beth Amikdash va commencer à brûler, mais en fait, c'est quelque part un moment où Hachem montre sa miséricorde. Il a fait le choix de brûler sa propre maison, de toucher à son propre honneur, mais pour sauver son peuple. Et c'est quelque part un moment de consolation, parce qu'on voit que Dieu nous aime tellement qu'il est prêt à profaner son nom, à imprimer, je rejeter, détruire cette maison qui était faite à son honneur, pour justement sauver son peuple. Et quelque part, c'est un motif de consolation, c'est un motif d'espoir, de voir combien Hachem nous aime. Donc en fait, Mizmor le Asaf, ce n'est pas Kina le Asaf, c'est-à-dire c'est pas une lamentation, mais c'est un Mizmor, un chant, que va entonner Asaf, le petit-fils de Korach, rapporté dans les Tehilim de David, où il va parler de la destruction, mais il va dire c'est quand même finalement cette destruction, c'est une, entre guillemets, une bonne nouvelle pour le peuple juif, qui quelque part va être sauvé grâce à ce choix qu'a fait Hachem de déverser sa colère. Là, c'est pas une colère déversée parce qu'il sait plus quoi en faire avec sa colère, c'est qu'il faut que le peuple juif comprenne la leçon. Et en détruisant le Beth Amikdash, le peuple juif comprend qu'il a fait erreur, se ressaisit, et finalement il ne tombe pas dans le précipice, il ne tombe pas dans une situation spirituelle si basse qu'il sera irrécupérable. Grâce à ce coup de semonce, mais qui coûte très cher, qui nous coûte très très cher à nous tous, l'absence du Beth Amikdash. Donc en fait, finalement, la période de Tisha B'Av, qui est une période de tristesse, c'est aussi un moment d'espoir, puisqu'on nous dit que le Mashiach va naître, ou peut-être il est déjà né, hein, on ne sait pas. En tout cas, il est né dans l'après-midi de Tisha B'Av. C'est-à-dire qu'au moment le plus terrible, finalement, c'est un moment d'espoir. Parce que, comme nous disait le Rav Shapira de nombreuses reprises, le mot charev, qui veut dire charev, c'est un glaive, hein, c'est une épée. Khurban, évidemment, c'est charev, c'est détruire. Et c'est les mêmes lettres, vous prenez les mêmes lettres et vous en donnez chaver, chibour, c'est-à-dire liaison. Ça veut dire qu'en fait, la destruction n'est là que pour recréer une nouvelle liaison plus forte, plus puissante, parce que malheureusement, et c'est un peu notre cas à nous tous, il faut se rendre compte que des fois notre judaïsme perd de sa puissance spirituelle, mais on se rattache au fait qu'on est finalement, on fait le Shabbat, on met des tefilines, on fait la tefila. Mais des fois, on l'a faite sans aucune conviction ou sans respecter vraiment l'halakha. Et donc, quelque part, on se rassure en disant que je fais telle ou telle mitzvah, mais on ne prend pas conscience des choses qu'il faut améliorer ou qu'il faut réparer et des problèmes que nous avons, nous. Donc, Hachem nous envoie des petits messages comme celui de la période des 3 semaines pour qu'on prenne toute la mesure de notre éloignement de Dieu. Combien on est finalement pas aussi proche de Dieu qu'on pourrait le penser. Et le fait de prendre conscience de cet éloignement, de cette distance, va nous rapprocher de lui. C'est pour véritablement qu'on prenne conscience et qu'on fasse des efforts nécessaires pour que nous nous rapprochions de lui, que grâce à cela, le Beth Amidash soit reconstruit très bientôt.
C'est intéressant parce que je m'étais dit un peu la même chose que votre conclusion en vous écoutant. Je me disais, mais on voit, disons même moi probablement, on voit qu'on peut faire la prière le matin, on met les téfilines, puis après, quasiment on n'est plus le même. C'est incroyable.
Exactement. Je peux vous ajouter un petit mot ?
Oui.
Je voulais obtenir une permission de me faire un shampoing pendant la semaine dans laquelle tombe Tisha B'Av. Ouais. Bon, on cherche tous un peu des permissions. C'est pas facile de pas se laver comme on le voudrait pendant cette période. Il fait chaud et bon, c'est pénible. Alors, je vais aller poser la question à un grand rave qui s'appelle le rave Ezriel Oyerbach. Et je lui ai dit, est-ce que vous pouvez me permettre? Il n'y a pas une permission possible, etc. Il m'a dit, écoute bien, jamais quelqu'un qui avait perdu son père ou sa mère m'a posé ce genre de questions. Ah. En fait, il a voulu me dire, attention, est-ce que tu prends la mesure du deuil? Peut-être tu n'en prends pas la mesure, et c'est pour ça que tu cherches à t'en débarrasser ou à trouver des permissions. Donc c'est important de réaliser que c'est important de prendre le deuil, mais pas pour avoir la rafa, comme je disais tout à l'heure, mais que prendre le deuil...
Prendre conscience.
C'est surtout pour pouvoir après un jour avoir la chance de se réjouir avec le Beth Amidash. Parce que c'est écrit que celui qui prend le deuil de Jérusalem aura aussi le mérite de se réjouir avec Jérusalem. Donc plus on prend le deuil, plus on sera joyeux avec notre Hachem de sa reconstruction.
Amen. Amen. Juste si vous avez fait une petite erreur, le Mashiach est déjà né. Non mais, je voulais juste vous dire ça.
Ah d'accord, merci.
Juste non, il est déjà né. Rav Gueye, je vous remercie. Excusez-moi pour cette petite impertinence, mais parce qu'elle était souriante. Et je vous souhaite Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom. Shem lo yivne bayit, shalom leiboy naboy, yim Hashem lo yishmarich, shav shokat shoy bay. Yim Hashem lo yivne bayit, shalom leiboy naboy, yim Hashem lo yishmarich, shav shokat shoy bay.